Chirac entendu le bonnois des patrons dans nos caisses.
Dans nos caisses.
Chirac entendu les cris sourds du proro qu'on agresse.
Qu'on agresse.
Aux pieds enseignants, ouvriers interminants, c'est l'alarme.
C'est l'alarme.
Ce soir, ces pouilleux connaîtront le prix du sang et des larmes. Roulez limousine, flambez à la corbeille, camarades. Foutez sur la paille le petit, sa marmaille, la mitraille,
la mitraille.
Oh, et les traîneurs, c'est bien le son du canon, vendez vite,
vendez vite.
Oh, et l'initié, le tuyau n'est pas crevé, faut acheter. C'est nous qui soudons les barreaux des prisons pour la plèbe,
pour la plèbe.
Sargo à vos trousses, des verveines qui vous poussent la misère,
la misère.
Et dans ce pays, le président est un pote, la corruption. Ici, nous vois-tu, on arrête, on embastille, on bâillonne. Ici, chacun fait comme il veut, où il veut, quand il passe. Ami, si tu tombes juste sans de long, c'est la grâce. Demain, du sang neuf remplira les fonds de pension, dividende. Prenez compagnon, sans ennui, la liberté est à vendre. Oh,
alors voilà, vous avez entendu, oui, ce sont les mêmes, c'est les mêmes, absolument, il y a récidive de ces intermittents qui se qualifient d'interlutants. Ils avaient occupé, vous vous souvenez, l'antenne de là-bas, si j'y suis, avec une sorte de chanson parodique, Raffarin, nous voilà, on les a eu à Paris, on les a eu à Strasbourg. Eh bien, les revoilà avec ce que vous venez d'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument consternant. Nous sommes désolés, mais nous avons obtenu de ces interlutants qu'en échange la diffusion de leurs, appelons ça des œuvres, eh bien, nous pourrions faire notre émission à peu près normalement. Alors, si de temps en temps vous entendez ce genre d'œuvres, eh bien, sachez que nous sommes pris en otage, nous, à la base, et puis vous aussi, par voie de conséquence, mais au moins, ne sommes-nous pas occupés par ces interlutants. Voilà, c'est déjà quand même quelque chose. Voilà, alors nous allons pouvoir écouter vos messages, les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, suite à l'émission de quand ? Eh bien, d'hier.
Bonjour Daniel, c'est Jean-Michel de Paris. Je viens d'entendre la série d'émissions réalisées sur la prison de Bois d'Arcy. Et j'avoue que j'en suis complètement retourné. Ça m'a beaucoup ému. J'imaginais d'une part pas ça comme ça parce que j'ai eu de la chance, n'y suis pas passé. Malgré quelques moments difficiles dans ma vie, comme le RMI, où j'aurais pu aussi me laisser aller de l'autre côté de la barrière. Et ce malgré en plus des études supérieures, ce qui fait que on en vient à conclure que c'est pas parce que on a un bon niveau d'études qu'on peut forcément s'en sortir, mais qu'il y a aussi une part de chance d'une part, et puis la conjoncture fait que. Mais tout ça pour en revenir au sujet des prisons, j'ai été très ému par tous ces jeunes qui sont enfermés à Bois d'Arcy. C'est vrai que c'est pas la solution, c'est pas du tout ce que j'imaginais en tout cas. Moi je pensais tout bêtement, parce que j'étais un gros abruti, que la prison était une solution pour les délinquants, et en fin de compte on se rend compte que ça ne l'est pas du tout. Ce sont des gens qui pensent, qui ont une âme, qui sont sensibles, qui pleurent, qui qui ont une mère, un enfant, une maison. Donc voilà, merci en tout cas beaucoup de m'avoir rafraîchi l'âme sur sur ce monde un petit peu interlope des cités et des banlieusards, des tous ceux qui sont un petit peu dans la galère et on découvre finalement que ça pourrait être tout à fait nos potes et qui sont en tout cas moi je me sens non pas plus proche d'eux mais en tout cas je les comprends, je les respecte et je me suis même pris au fur et à mesure des émissions d'une certaine affection pour certains d'entre eux, c'est même si je les connais pas, je les vois pas. Donc voilà.
Bonsoir Daniel Mermet, donc je suis Anne. J'ai déjà laissé un message vendredi mais il semble que cela n'est pas suffi. Donc je suis CIP, conseillère d'insertion et de probation, donc travailleur social dans l'administration pénitentiaire. Il y a des CIP dans tous les établissements pénitentiaires, qu'il s'agisse de maisons d'arrêt, de maisons centrales ou de centres pénitentiaires. Justement, l'année dernière, au moment du reportage de Guy Vanquille, nous étions deux CIP référentes sur le quartier mineur de la maison d'arrêt Bois d'Arcy. Nous faisions partie de l'équipe pluridisciplinaire qui travaillait sur ce quartier et qui comprenait donc la direction, les surveillants postes fixes, donc Nadia, Bertrand qu'on a entendu aussi, durant les reportages depuis mercredi. Depuis mercredi, donc, pas un mot sur les CIP, donc conseillers d'insertion et probation, pas un mot non plus sur les activités et actions menées sur le quartier mineur. Est-ce bien normal? Est-ce une omission volontaire de la part de la base où j'y suis? Je commence à le penser. J'espère qu'il y aura une nouvelle émission mardi soir, de façon à ce que cette omission soit réparée. Voilà, merci, au revoir.
Bonsoir Daniel, c'est Marc de Toulouse. Je viens d'écouter l'émission consacrée aux jeunes délinquants incarcérés en prison. Et j'ai entendu que tu dis qu'il n'y a pas de solution en fait à leur comportement. Ils vont recommencer 80% de récidive. C'est un gâchis humain qui m'est inconcevable. Alors, moi, je crois que, il faudrait regarder un peu les solutions qui sont possibles. Je veux dire, il y a des choses qui ont été faites, déjà. Je veux dire, je pense, par exemple, au lavage de cerveau qui ont été fait par les communistes. Et est-ce que ce genre de technique ne serait pas implémentable pour ce genre de cas? Effectivement, il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de rebuts. Et ça marchait pas très bien et c'était pas durable, mais peut-être que les techniques ont évolué depuis. Bon, regardons toutes les manipulations mentales sectaires. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer afin de rectifier l'esprit de ces jeunes gens. Voilà. Salut Daniel.
Oui, bonsoir, Françoise de Lille. J'écoute quand je peux l'émission qui passe actuellement sur la maison d'arrêt, le quartier des mineurs de Bois d'Arcy. Je suis éducatrice et j'ai entendu quelques messages d'auditeurs qui remerciaient les personnels des maisons d'arrêt, les éducateurs qui pouvaient travailler avec ces jeunes qui gueulent encore, dit-on. Moi, je suis éducatrice depuis plus de 20 ans. J'approche les 45 ans. Je suis un peu émue parce qu'effectivement, j'en ai marre d'entendre gueuler ces gamins sans qu'il y ait personne pour leur répondre. Et de temps en temps, on s'émeut. Hein, et on parle d'eux et on parle jamais des éducateurs. Si, on parle des éducateurs quand on parle des enseignants ou des parents. Mais on parle jamais des éducateurs qui font un boulot dans l'ombre. Alors quand j'étais jeune, on m'appelait l'éducastratrice. Je sais pas si je suis éducastratrice. En tout cas, je me dis que effectivement, heureusement qu'ils sont là, les éducateurs, pour faire un petit peu le tampon entre ces jeunes qui gueulent et puis la société, comme on dit. Je sais pas ce que ça veut dire, la société. C'est tout le reste ou c'est qui? C'est nous? C'est... Enfin, je sais pas à quoi ça mène ce que je suis en train de vous raconter, mais... Si Mermet pouvait un jour penser à faire une petite émission pour donner la parole à tous ces travailleurs de l'ombre, je serais contente de les entendre. Merci.
Voilà, beaucoup de réactions hein, autour de cette série de reportages à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, le quartier des jeunes, des jeunes délinquants. Aujourd'hui, on va parler avec un juge, c'est pas si souvent, qui est Gilles Senati, et qui va nous donner son sentiment un petit peu pour essayer d'aller plus loin sur ces questions. Auparavant, il y a beaucoup de messages, hein, vous avez un petit peu débordé là pour tout dire. D'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe, je m'appelle Leïla Jacquard, et je vais vous lire une pétition qui avait été envoyée à tous les médias en début d'année. Donc une pétition que les personnes donc détenues à la centrale de Moulins Isère ont faite, justement pour dénoncer les conditions, ce qui expliquera aussi ce qui s'est passé la semaine dernière, et c'est en rapport avec vos émissions donc que vous faites en ce moment et qui sont fort intéressantes d'ailleurs. Alors, cette lettre était adressée bien sûr au directeur de la centrale. Monsieur le directeur, vous êtes en train d'enfermer la France entière, niant les droits acquis par d'innombrables luttes et un futur que nous, détenus, souhaitons baser sur un peu plus de justice et non sur la paix des cimetières. Le 2 avril, il fermait l'intégralité de la maison centrale au nom et sur ordre de Monsieur Perben et de sa grande connaissance du terrain et de la manière dont les détenus et même les agents doivent être traités. Des technocrates, bureaucrates et hypocrites se servant, utilisant, instrumentalisant, bien sûr toute une armée de fonctionnaires pour faire de la privation de liberté, la privation de vie et notre tombe. Nous, prisonniers du centre pénitentiaire de Moulins-Isère, dénonçons cette politique de fermeture des portes, criminelle et arbitraire, qui ne poursuit par d'autres buts que d'alimenter et médiatiser un discours parano-sécuritaire qui, pour d'obscurs intérêts, convient au tout contrôle, mais très peu à des politiques basées sur le social, la justice et l'insertion. Le fait que ces pratiques soient menées dans l'ignorance absolue des causes réelles qui provoquent autant de malaise et de révolte dedans comme dehors. Nous vous rappelons que d'innombrables demandes et revendications de base, comme le rapprochement familial, des parloirs intimes, le droit à la santé, le droit au travail, aux études, à la culture, sont niées dans vos prisons et que celles-ci deviennent de grosses entreprises au seul bénéfice de la corruption et d'autres arts. Nous prévenons les autorités que cette situation est invivable et que le silence « tout va bien » n'arrange en rien le malaise des personnes détenues en général et moins encore celui des longues peines, condamnées à une mort lente, sans futur, sans espoir et sans que personne ne s'inquiète de cette réalité. Nous exigeons l'ouverture des portes de cellules acquises dans les centres pénitentiaires après des luttes au nom de ce qui était juste et surtout de ce qui nous est nécessaire pour que le fil qui nous rattache à la vie ne soit pas rompu. Vivre dignement, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Lutter pour ne pas que l'absurdité s'impose une obligation. Merci beaucoup. Si vous voulez la pétition, vous pouvez me rappeler et je vous la faxerai bien sûr. Merci et bonne émission. Merci.
Oui, bonjour. J'entends là qu'il n'y a pas de solution pour les jeunes qui sont incarcérés. Moi, je me suis occupé pendant 30 ans d'enfants en difficulté. J'ai créé des lieux de vie, j'ai participé à des expériences de voyage. Et je pense que pour tous ces jeunes, la meilleure chose à faire, au lieu de les stocker dans des prisons, ce serait de leur faire connaître le voyage. Il y a des millions de bateaux qui servent à rien dans les ports. L'artisanat, il y a des gens qui sont prêts à transmettre la connaissance, la coopération aussi. Il y a beaucoup de travaux humanitaires et moi j'y avais travaillé. Je traversais le Sahara avec des jeunes pour aller faire des échanges sur l'humanitaire avec les pays africains. C'était génial. Le problème c'est que personne s'en occupe de ça. Et ce qu'ils font, ils se font flinguer à distance. Les projets pour les jeunes dans les prisons, j'en ai plein. Et des choses à dire aussi sur comment fonctionne la justice et l'aide à l'enfance, j'en ai beaucoup des choses à dire. Au revoir.
Salut Daniel, Isabelle de Grenoble. À propos des tolards mineurs ou majeurs, souvent nombreux de la même famille, frères, cousins, oncles, je me pose une question. Leurs cousines, sœurs et tantes, où sont-elles? Elles vivent pourtant bien dans la même mouise que leurs hommes, si ce n'est pire. N'y a-t-il que les mecs pour déconner à ce point? Je rappelle qu'il n'y a que 3% de femmes en prison. Et si on se décidait à éduquer les garçons autrement que dans ce machisme monstrueux? Et si on se posait enfin de bonnes questions? Merci.
Ouais, j'appelle en direct de la Maniche à l'occasion de la journée mondiale du sida. Quand même, je me dis qu'en France, on croit beaucoup trop que la lutte contre le sida est l'affaire des PD et des puces exclusivement. Alors qu'il serait quand même grand temps de se réveiller massivement plutôt que d'être terré aux fenêtres, là, comme c'est le cas, là, les gens nous regardent comme si on était des pestiférés, mais faut arrêter de vivre sous l'emprise de la peur, quoi. Et il est vraiment temps de réagir et d'être solidaires les uns des autres. Voilà, salut.
Salut Daniel. Dimanche, je suis allé au concert de Pascal Obispo à Strasbourg. Non, je ne suis pas fan d'Obispo. J'accompagnais ma copine. Nous n'avons pas les mêmes goûts musicaux, mais bon. Je m'attendais à me faire suer pendant 3 heures en écoutant un chanteur que je trouvais simplement nul, quand celui-ci s'est mis à chanter la dernière chanson de son copain Florent Pagny. Chanson où il déclare avoir une liberté de pensée avec un seul neurone en état de marche. Or, Monsieur Obispo milite contre le sida avec des slogans originaux, inédits et révolutionnaires du style « Protégez-vous ». Monsieur Obispo milite aussi aux côtés de son copain Florent Pagny pour le droit des plus riches à être exonérés d'impôts. Dis donc, Monsieur Obispo, tu ne penses pas que payer ses impôts, ça permet de financer la recherche publique contre le sida? Mais ça, c'est un argument trop compliqué pour tes fans. Salut Daniel.
Oui, bonjour Monsieur Daniel Mermet. Je prends le courage de vous lire ce tract parce que je profite aussi du fait que nous parlons aujourd'hui de la journée mondiale du sida. Donc le sida est en pleine croissance, le nombre des victimes du sida et les maladies opportunistes explosent dans mon village. Le village est Bodié, un tout petit village qui compte à peine 440 habitants perdus dans la forêt équatoriale au sud du Cameroun, dont on pourrait espérer qu'il serait à l'abri de ce fléau, bat pourtant aujourd'hui un record du nombre de décès dus au sida en proportion de sa population. Les orphelins du sida sont de plus en plus nombreux. Tous sont de bas âge. La plupart ont moins d'un an et sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Les membres de leur famille qui les recueillent, parfois eux-mêmes à peine n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, en plus de ceux de leurs propres enfants. Les habitants de Bodié manquent de médicaments, de soutien psychologique et matériel. Il manque également de moyens de prévention et de dépistage précoce du virus. Les enfants sont touchés dans leur chair, manque de nourriture, de vêtements, de jouets d'éveil. La souffrance leur a tenu la joie de vivre. Le sida est en train de gagner son combat. Et bientôt, il chantera victoire, car d'ici 2010, il n'y aura plus personne dans mon village. On ne trouvera qu'un immense champ de cadavres. Que faire? Vous pouvez aussi envoyer vos dons. Et vous, Monsieur Mermet, je souhaite que vous soyez le parrain de cette association, un espoir pour les enfants des Bodié. 10 allée de Reuilly, 45430 Chessy. Je suis Nicole, la présidente de cette association. Merci beaucoup.
Alors, c'est pas très clair, manque de chance, le message, mais 10 allée de Reuilly, 45430 récit, si j'ai bien compris. J'espère que l'auditrice Nicole nous écoute et qu'elle nous donnera sur les prochains messages sur le répondeur 0156 40 37 37 des indications plus précises. Mais enfin, voilà ce que nous avons noté. Je voudrais profiter là pour vous revenir un petit peu en arrière, faire une petite mise au point suite à un petit courrier qu'a adressé un auditeur sur l'émission du 14 novembre 2003 qui se tenait au Forum social européen, vous vous souvenez, à la Villette. Et notre invité principal, c'était Tariq Ramadan, et nous avions toute une série d'invités, dont José Bové, Annie Coupé, Denis Siffer, enfin, il y avait toute une brochette d'invités. Et cet auditeur dit qu'il a été un peu choqué d'entendre Daniel Ben Saïd, le philosophe Daniel Ben Saïd, dire que pour justifier et pour légitimer sa politique, l'État d'Israël ferait du détournement de cadavres en annexant les morts en déportation. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si Daniel Ben Saïd pensait à ceux de sa famille qui effectivement ont disparu en déportation, mais il va de soi que pour ce qui me concerne, je ne m'exprime pas de cette façon et je n'approuve pas du tout cette façon de voir les choses et de s'exprimer. Et je laisse évidemment à Daniel Ben Saïd la responsabilité de ses propos, tout comme les messages que vous entendez sur ce répondeur. Il va de soi, mais vous comprenez très bien que je n'approuve pas tous les propos qu'on entend sur ce répondeur, pas seulement ceux qui me mettent en cause ou qui mettent en cause l'émission, ce qui est tout à fait normal. On est là pour être critiqué, pour être discutable. Hein, c'est Bourdieu disait, être discutable, c'est mériter d'être discuté, c'est déjà beaucoup. Mais quand quelqu'un dit il faudrait leur faire un lavage de cerveau comme on faisait du temps des communistes, il va de soi que je n'approuve pas ce genre de propos, mais je vais pas à chaque instant dire je désapprouve. Et on fait quand même un petit peu confiance à nos auditeurs quant à leur sens critique. Mais c'est vrai que juridiquement, voilà. Mais il y a le juridique et puis il y a le sens de la critique et l'intelligence des uns et des autres. Suite.
Ouais, salut Daniel, c'est Fabien. Écoute, je t'appelais pour annoncer un concert de soutien pour les grévistes du McDo Strasbourg-Saint-Denis ce soir. Donc ça se passe à main d'œuvre à Saint-Ouen, c'est accessible en métro avec le métro Garibaldi et le métro Porte de Clignancourt. Et en bus par l'arrêt 85 à l'arrêt Paulbert. Et il y aura les groupes Elista, Esdragon, Karma Sutra, Java, et toute la billetterie sera réservée, reversée aux grévistes. Donc voilà, ça fait 8 mois que ça dure pour eux, et c'est vraiment dur. Donc on attend beaucoup de monde à ce concert, voilà, pour parler un petit peu de cette grève qui est assez courageuse. Voilà, donc c'était Fabien, salut. Salut Mermet, Pierre, 57 ans, caméraman Angoulême. Écoute, Blues My Kitchen, Robert Johnson, pourquoi tu ne fais pas une émission sur le blues justement? Moi je t'écoute encore plus quand le blues s'empare de mon esprit. Donc dans les deux sens, le blues, c'est bon le blues. Adieu Mermet.
La République est bonne mère, l'intermittent est un feignant. Contre nous de ses sales manières, ce vampire pompe notre argent. Ce vampire pompe tout notre argent. Entendez-vous dans nos théâtres mugir ces féroces cancres-là? Ils viennent jusque dans vos bras dégueuler leur bile saumâtre. Aux armes, français d'en haut, la vermine écrasons, crèvons, qu'un sang impur coule de la France d'en bas, que cette horde d'esclaves, bande de clowns enfin de droit, pour qui ces ignobles en bavent, pourquoi et pour quel syndicat? Pourquoi et pour quel syndicat? Français pour nous, à quel outrage, engraisser tous ces excités? Il faudra les faire trépasser, ou les rendre à l'antique esclavage. Aux armes, français d'en haut, la vermine écrasons, crèvons, qu'un sang impur coule de la France d'en bas. La République est bananière, si ta tendrouillant n'aura plus. Ne fais donc pas tant de manières, assieds-toi donc sur ta vertu, assieds-toi donc sur ta vertu, Être sans sous n'est pas survivre, autant finir dans un cercueil. Ouvre vite ton grand portefeuille, oui c'est ça, allez laisse-toi vivre. Aux armes, français d'en haut, la vermine écrasons, crèvons, qu'un sanguin pur coule de la France d'en bas.
Mais c'est consternant, je suis d'accord avec vous, mais on peut pas faire autrement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Gilles Senati, vice-président du tribunal de Perpignan, vice-président du syndicat de la magistrature, et c'est la suite et la fin de Peine perdue.
C'est facile de faire rentrer du pédo. C'est le secret de la prison. Il faut de la magie. Il faut être mal. Faut pas trop ouvrir sa bouche. Et nous, mineurs, on n'a pas besoin de faire rentrer. On demande aux majeurs, et ça y est, ce qu'on vient là. On prend notre dame, on les appelle, ils sont à la fenêtre. Ils balancent un yo-yo, et ça y est, t'as tout ce que tu veux.
C'est malheureux à dire, mais entre 4-5 passages au quartier mineur, après c'est le bâtiment adulte, et voilà, quoi. C'est une carrière pénitentiaire, mais de l'autre côté des barreaux. Parallèle à la nôtre, quoi.
C'est la loi de la jungle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est la loi de la jungle.
La prison, c'est pas dur. La prison, c'est la pression.
Allez vous faire victimer ! Bande de victimes !
Étape 91.
Aïe, aïe, aïe.
Je viens du 9-1. 3-5-0.
Eh, c'est tête d'homme, voilà.
Astérix 9-3, on est Al.
C'est pourri, voilà, si.
Dicasse à Koulibé. Malco.
Chantilly.
Déployer demain des services de police massivement dans le quartier de la Défense, non pas pour regarder ce qui se passe dans les cages d'escalier, mais dans les bureaux des entreprises qui y sont, on va voir un afflux massif de gens qui vont être incarcérés pour fraude fiscale, infraction communautaire, etc. Nous avons aujourd'hui 400 inspecteurs du travail en France. Triplons le chiffre et vous verrez que demain, les fraudes aux infractions sur la législation sur le travail vont se multiplier par 3, 5, 10 et qu'on pourra construire un nouveau stéréotype social de finalement ce qui menace, fait peur et est réellement dangereux pour notre société.
Eh oui, on parle de violence urbaine et scolaire, d'incivilité, de bande, de zone de non-droit, mais Laurent Bonelli, notre sociologue, ben oui, nous attire tout simplement notre attention sur une chose qu'on perd de vue tout simplement, c'est qu'il existe une autre délinquance que celle qu'on a rencontrée tous ces jours derniers dans le quartier des mineurs de Bois d'Arcy, c'est la délinquance économique, par exemple, détournement de fonds pour le financement d'un parti politique. Par exemple, la délinquance financière, la délinquance concernant l'environnement. Eh oui, le prestige, les Ricards, voilà, de la délinquance, les infractions à la législation sur le travail. Ah oui, il y a beaucoup d'infractions. On pourrait penser que, la lutte contre la délinquance et l'insécurité sociale pourrait être une des préoccupations d'un État et d'un gouvernement. Comme le nôtre, quand on dit insécurité, eh bien, on pense tout de suite à ces jeunes, directement à ces jeunes que avec qui nous avons passé toutes ces heures. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur ces questions, aujourd'hui on rencontre un juge, oui un juge, c'est pas si souvent dans la base j'y suis, qui s'appelle Gilles Senati, qui est vice-président du tribunal de Perpignan et qui est vice-président du syndicat de la magistrature. Claude Lévi-Strauss disait « Le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. »
Coupable innocent, c'est par le cash de pourcent. Silence brisé par les sirènes de la police.
Justice, nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risques que le dealer de ma rue.
Jamais par la répression voulant qu'il en ait la paix, la paix.
Seul le crime paye, aucun report pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie.
Monter des commerces, élever la tête des nôtres. Apprendre à nos petits frères que l'illicite est une fausse.
Et te raconte l'amertume de jeunes dans la merde.
La haine, elle augmente. Nous aussi on bute un color d'affiche pour l'exemple, ça les dents, ouais.
J'fais pas de sentiments, kick pas gentiment. Puis mes châtiments déterminés, laissez les dents ciment.
Foutez tout ce qui bouge, on se retrouvera là-haut, vous savez.
Là d'où on vient,
c'est la famille des pieds.
Laissez à la dérive sans rien.
La rue m'a baptisé.
Maintenant, tu vois ce que pense quelqu'un comme moi.
Alors Gilles Senati, vous êtes vice-président du tribunal de grande instance de Perpignan, vous avez été juge d'application des peines pendant 12 ans et vous êtes membre du syndicat de la magistrature, on dit SM. Hein?
SM, oui, je sais pas.
Sado-maso, c'est plutôt maso.
En ce moment, on est maso, oui.
Alors, tout ne va pas si mal dans notre beau pays, il y a des chiffres qui augmentent. Mm-hmm. Le chiffre du chômage qui augmente, plus de 7%, donc voilà quelque chose qui augmente. Et puis un autre chiffre qui augmente également, celui de la détention.
Oui.
C'est un record historique. On a dépassé 60 000 détenus dans notre beau pays. Y a-t-il un rapprochement à faire entre ces deux chiffres, ces deux augmentations, selon vous?
Ben, moi, je pense qu'il y a un rapprochement à faire. Bon, en dehors des problèmes, des analyses qu'on pourrait avoir sociologiques sur le fait de passer à l'acte, de commettre de la délinquance pour pouvoir finalement profiter du monde de la consommation, là, ce que l'on peut dire, c'est qu'actuellement, l'État traite de plus en plus les problèmes sociaux par le pénal. Et donc, j'ai bien l'impression qu'on est à 60 000 détenus, mais qu'on va construire de nouvelles prisons et qu'on va exploser le chiffre. Et donc, effectivement, il y a une confusion totale qui s'instaure, de moins en moins, finalement, de suivi ou d'aide sociale, et de plus en plus de pénal et de peine.
Vous parlez d'une surenchère du sécuritaire.
Oui, une surenchère du sécuritaire, oui. C'est-à-dire que, finalement, dès qu'une loi est votée maintenant, pas finalement ces derniers mois, mais depuis de manière générale, à chaque fois on met une infraction pénale pour pouvoir sanctionner des comportements qui seraient douteux. Et donc, effectivement, il y a une accumulation de peines qui sont faites prononcées pour différents comportements, et de plus en plus, ces peines sont prononcées avec des peines d'emprisonnement.
Mais attendez, vous êtes vice-président du tribunal de grande instance, donc c'est vous qui les prononcez, ces peines.
Alors, en ce moment, je fais pas du pénal, mais effectivement, de toute manière, je crois que on peut dire que on est dans un système qui fonctionne de manière, je dirais, anonyme. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que les juges prononcent des peines de plus en plus fortes, et on peut le déplorer. Moi, je suis pas tout sur cette tendance-là, mais en plus, de toute manière, les procédures, il y en a de plus en plus, les faits sont de plus en plus poursuivis par les services de police et de gendarmerie, et finalement, on arrive à une augmentation totale du nombre d'infractions qui sont punies par des peines d'emprisonnement. C'est une démarche générale qui, semble-t-il, ferait plaisir au peuple, puisque le peuple voudrait que les gens aillent en prison pour bénéficier d'une sécurité accrue. C'est enfin le discours officiel.
C'est le discours officiel qui est basé sur quoi ?
Mais qui est basé peut-être sur à la fois un sentiment d'insécurité, ça ce qui est vrai. On peut dire que le fait que vous soyez dans une situation fragilisée, précarisée par l'emploi, finalement des actes d'incivilité. On a parlé beaucoup d'incivilité il y a quelques années. L'acte d'incivilité font que vous êtes vous sentez agressé et que donc il faut pour cela avoir une réponse qui serait adaptée. Mais en réalité, la réponse n'est pas adaptée. La réponse c'est d'augmenter le nombre de peines d'emprisonnement, et dont on sait pertinemment que les personnes qui vont en prison, eh bien c'est un peu l'école du crime, c'est-à-dire qu'il y a 2/3 à peu près de récidives des gens qui vont en prison. On le sait que c'est pas la solution, mais on le fait parce que c'est plus simple.
Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture. Je regarde s'ils sont présents, je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Les petits piranhas des cités de l'exil périurbain inquiètent le bon peuple accro aux drogues dures de la sécurité. Nous entrons dans le 3e millénaire avec une loi digne du 19e siècle. L'inspiration policière ne restera-t-elle pas à tout jamais marquée par l'esprit de Javert ? Rassurez-vous tout de suite. Croyez-en en notre longue expérience de la répression. Vous avez pris le bon chemin. Et de quelques petits voleurs de miches de pain, vous allez faire de redoutables forçats. Arrêtez. Nous savons bien que de nos jours, ils vendent des barrettes de shit et tirent des portables. Mais l'esprit demeure le même. Le système réprime la misère qu'il a su si bien entretenir. Et tout naturellement, le néolibéralisme a opté pour la solution de la criminalisation des pauvres. Que vaut une société qui envoie ses enfants en prison ?
Très violent, hein, ça. C'est le son qui vous a le plus frappé au cours de ces de cette série à Bois d'Arcy. On est avec Gilles Senati, juge et membre du syndicat de la magistrature. Alors, il y a cette violence, il y a cette notion, on a parlé du sentiment d'insécurité, comment mesurer réellement l'insécurité, sinon à travers le flou du sentiment, mais y a-t-il véritablement augmentation de la violence ?
Alors, il y a plusieurs éléments qu'on peut apporter à cette question. Premièrement, le nombre de crimes, donc d'infractions graves, et notamment de crimes avec homicide, c'est-à-dire des meurtres, assassinats, enfin des crimes de sang, n'ont pas augmenté depuis au moins 20 ans. Bon, ça c'est une chose objective, on peut pas le nier. Mmh. Il y a une augmentation effectivement du nombre de d'affaires à connotation sexuelle, mais on sait aussi qu'il y a un effet d'entraînement puisque depuis ces 10 dernières années, il y a une campagne très importante qui a été faite sur la dénonciation de ce type de crime et sur une prise en compte par la collectivité de ce type de choses. Donc là, on sait que il y a quand même une politique qui a été menée pour en arriver là. Donc là, c'est clair. Et on sait aussi que d'ailleurs, les personnes qui sont incarcérées pour ces affaires-là ne sont pas traitées, ou très peu, dans les prisons, et qu'il y a des problèmes psychiatriques et psychologiques graves qui sont posés par ces infractions-là et qui ne sont pas traitées. Donc là, il y a une réelle difficulté de la prise en charge par le système pénitentiaire de ce type de personnes qui sont condamnées pour des affaires sexuelles. Mmh. Et puis après, il y a une augmentation, effectivement, du nombre d'atteintes aux biens, c'est-à-dire principalement des vols, principalement des choses de dégradation au vol. Et donc ces affaires-là, effectivement, ont augmenté, tout simplement parce que, d'une part, un taux de chômage important, et donc c'est vrai que l'appropriation des biens de l'autre, du voisin qu'on ne peut pas acheter, ben, ça existe quand même, c'est un réflexe qui existe, d'une part, et d'autre part, donc il y a de la misère sociale, et en plus, on est arrivé actuellement au fait qu'on sanctionne par des peines d'emprisonnement des affaires qui, il y a encore quelques années, n'étaient sanctionnées que par des peines de sursis, de sursis avec mise à l'épreuve, ou des peines de suivi en travail d'intérêt général, par exemple. Mmh. Donc ces peines alternatives ne sont plus prononcées parce que, d'une part, il n'y a plus les moyens de vous les mettre en place, les services de probation sont surchargés, et il n'y a absolument plus assez d'éducateurs pour suivre les personnes en probation, et d'autre part, parce qu'effectivement, il y a une tendance un peu démagogique et populiste qui est de dire, finalement, vous avez un voisin qui vous gêne, il a volé votre autoradio dans votre voiture ou bien pillé votre boîte aux lettres, et bien on va mettre en prison. Et ça, effectivement, c'est une tendance assez lourde des responsables à la fois politiques et aussi, finalement, ça a une conséquence dans les médias, c'est évident, et un effet d'entraînement ensuite dans les services de police, de gendarmerie et de justice.
Non, c'est rien, c'est rien.
C'est ça la prison, bah ouais, c'est une sorte d'école, c'est l'école du vice.
La prison elle-même sert à quoi ?
Actuellement, elle sert à écarter de la société une personne. Point. Après l'emprisonnement, je pense qu'effectivement, il est parfois nécessaire d'emprisonner les gens pour des affaires graves, criminelles. Mais le problème, c'est pas de savoir si on emprisonne les gens. Le problème, c'est de savoir, effectivement, c'est pourquoi. Souvent, à mon avis, ce sont des faits qui méritent pas d'emprisonnement, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'il y a après la prison ? Est-ce qu'il y a des plans de réinsertion des personnes incarcérées ? Actuellement, on peut dire que c'est vraiment le parent pauvre. On veut construire des prisons neuves, certes, mais on veut pas se poser la question de savoir si on met des moyens pour réinsérer les détenus. Et on sait très bien que incarcérer les gens dans de telles conditions, ça va inévitablement créer des récidives. Et c'est ça qui est absolument aberrant, c'est qu'il n'y a absolument aucune projection sur le moyen ou court terme de cette politique.
Mais c'est pas un débat nouveau.
C'est pas un débat nouveau, c'est un débat effectivement qui perdure depuis longtemps. Qu'est-ce que la prison, à quoi ça sert, pourquoi mettre les gens en prison? Mais en plus, je pense qu'il y a une évolution importante des personnes qui sont incarcérées actuellement, qui ont des problèmes souvent psychologiques ou psychiatriques graves. Ce sont des gens qui commettent des actes parce qu'ils ont des problèmes, des équilibres psychologiques et psychiatriques graves et qui ne sont pas pris en charge par le secteur public psychiatrique, parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins de psychiatres, on sait qu'il y a de moins en moins de services de suite, etc. Et donc ces gens-là, finalement, commettent des actes, on les incarcère, et dans prison, il n'y a absolument pas non plus de suivi suffisant. Ce qui fait que la prison actuellement recouvre différentes missions qui sont finalement des missions asilaires telles que concevaient au 19e siècle pour des problèmes psychiatriques et psychologiques, alors qu'il devrait y avoir un suivi en milieu ouvert. Et les surveillants le disent, ils ne peuvent plus, les surveillants le disent, on ne peut plus faire face à la population que vous nous envoyez. Ce sont des gens qui ont, sont tellement précarisés et qui ont tellement des troubles psychiatriques et psychologiques graves qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Selon vous, en clair, on pourrait réduire cette incarcération de combien?
Si des moyens étaient mis en place et puis un choix de politique clair était fait de ne pas poursuivre tout et n'importe quoi et de se concentrer sur des, effectivement des faits graves, des trafics par exemple, des trafics de stupéfiants graves ou des choses qui ont rapport avec la délinquance organisée ou la criminalité organisée, c'est pas ce que va proposer d'ailleurs Monsieur Permen. Et bien si on faisait ça, effectivement, on pourrait envisager une prise en charge sociale en dehors d'un cadre judiciaire de tous les gens qui sont actuellement incarcérés. Et je pense qu'on pourrait baisser au moins la moitié de la population pénale. En tout cas, on devrait arriver entre 20 et 30 000.
Voilà. Pas plus de 20 à 30 000 selon vous.
Oui, bien sûr, parce que tous les, il y a des personnes qui sont incarcérées, qui, des étrangers sans papier. Bon. Est-ce que, parce qu'on n'a pas de papier de trait de séjour en France, on doit être incarcéré? Une question, quand même. Est-ce que le toxicomane qui a des problèmes de toxicomanie doit être incarcéré systématiquement? Est-ce que les problèmes sociaux dans les quartiers qui existent dans les cités doivent aboutir systématiquement à la peine d'emprisonnement? Est-ce que les mineurs, ensuite, qui commettent des infractions qui ne sont que correctionnelles, que des fois on qualifie criminels tout simplement parce qu'ils sont commis à plusieurs en bande organisée, doivent être incarcérés? Enfin bref, on pourrait égrener un nombre de personnes qui, manifestement, devraient avoir un autre traitement de leurs problèmes sociaux et psychologiques et médicaux que la prison.
La voix de ce jeune qui répète ce mot comme ça pendant des heures et des heures dans cette prison de Bois d'Arcy, ça s'appelle aller à contre-courant, hein, ce qu'on entend aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. C'est clair et net, l'idée de ce juge Gilles Senati du syndicat de la magistrature, de vider les prisons françaises de la moitié, ont l'air tout à fait plausible, tout à fait réaliste. Et il n'est pas le seul. C'est pas tellement l'air du temps. C'est pas tellement l'air du temps. C'est pour ça que c'est dans la basse si j'y suis. Gilles Senati, je le rappelle, est juge, donc il est vice-président du tribunal de Perpignan. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il a été pendant 12 ans ce qu'on appelle un JAP, c'est-à-dire un juif. J'étais sûr de me tromper. JAP en anglais, ça veut dire Jewish American Princess, mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire juge d'application des peines en français, c'est-à-dire ceux qui s'occupent justement de ces jeunes au cours de leur détention, pour la prolonger, pour la réduire, pour l'aménager. C'est ça, exactement, un juge d'application des peines. Est-ce que c'est différent pour les jeunes délinquants? Ils sont environ 700-800 actuellement à être détenus dans les prisons françaises. Est-ce que c'est le même...
Alors la tendance, elle est que on va de plus en plus pénaliser, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les comportements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le juge des enfants, par exemple, qui intervient pour les mineurs, était compétent notamment pour les assistances éducatives, de mettre en place des suivis d'assistance éducative pour éviter que les personnes sont dans la délinquance ou réitèrent des actes de délinquance. Et il y avait un suivi éducatif qui était mis en place. Ce suivi éducatif est de plus en plus menacé parce que il y a des lois qui sont passées, des décentralisations par exemple, qui font que il y a de moins en moins de moyens en matière éducative. Et par contre, ces gens-là, on les traite de manière pénale. Donc on sanctionne par des peines d'emprisonnement ces jeunes que l'on traite plus de manière sociale, mais on les traite de manière pénale et on les incarcère. Voilà à peu près la tendance. L'enveloppe globale, les personnes qui sont suivies par les juges d'enfants, il n'y a pas eu une augmentation depuis 1995, mais en réalité de plus en plus, il y a de moins en moins d'assistance éducative et de plus en plus de pénale. En plus, les réformes récentes aboutissent à faire un régime quasiment identique pour les mineurs que pour les majeurs. Donc la peine d'emprisonnement, finalement, maintenant est distribuée aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. Et le principal point commun de ces mineurs qui sont incarcérés, quand même, on aperçoit, c'est qu'ils sont tous désinsérés de l'école depuis très longtemps. Donc déjà, il y a peut-être un problème, effectivement, de prise en charge des problèmes sociaux dans les établissements scolaires. Il est vrai que dans les collèges et les lycées, il y a très peu d'assistance sociale, très peu de services de psychologues qui peuvent suivre les gens qui ont des problèmes, et effectivement, il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus, déjà, premier point. Et le gamin désinséré, ensuite, eh bien évidemment, après, va se comporter dans le cadre d'un petit caïd de quartier et va faire des conneries. Et ces conneries, effectivement, vont aboutir à la peine d'emprisonnement, alors que peut-être il faudrait un suivi éducatif et quelque chose de plus judicieux, parce que pour l'avenir, de toute manière, il faudra bien quand même l'insérer dans cette société.
Alors, parlant comme vous le faites, j'imagine ce que disent les auditeurs, oh ben d'accord, Mermet a trouvé
un juge laxiste.
On voit qu'il ne vit pas dans une HLM ou dans des quartiers défavorisés, qu'il ignore tout à fait les réalités.
Alors, je vais pas faire un outing, mais enfin, je vais pas des quartiers chics, mais la réalité, je le vois dans mon travail professionnel tous les jours, tout simplement. J'ai été juge d'application des peines pendant 12 ans, j'ai vu quand même la réalité de ce qui se passe en prison, et je suis pas le seul à le dire. Il y a des surveillants de prison qui le disent, je suis pas le seul magistrat à le dire. Il y a même des policiers qui disent qu'ils en ont marre de faire de sauter dessus de petits trafics comme stup et qu'ils devraient se concentrer sur des trafics organisés. C'est pas un discours qui paraît tout à fait anodin et qui est fondé sur des réalités. En réalité, pour le moment, ce discours, personne ne veut l'entendre. On pense que en mettant les gens en prison, ça va régler le problème de la société. Je crois que on va devant un mur, c'est tout.
Ouverture d'une porte de cellule. Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, et je le fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Et cet instant, il n'y a plus de limite. L'engrenage est sans fond. Nous n'avons rien de voyant extralucide. Les bandes de Gremlins sortiront des foyers de la tolérance zéro, avec pour seule éducation la capacité d'inventer une délinquance bien plus dure que celle de leurs prédécesseurs sortis des foyers de la DAS et des centres d'éducation surveillés. Vous pouvez sortir vos mouchoirs, mais il est bien trop tard.
Je me souviens des débats qui ont accompagné l'abolition de la peine de mort en France. Est-ce que vous croyez qu'un jour on aura un débat autour de l'abolition des prisons en France ? Parce qu'il y a un mouvement abolitionniste dans le monde, depuis longtemps, qui aujourd'hui, d'après en France, il est au degré, et ça c'est pas grand-chose. Mais enfin, bon, l'idée persiste. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait avoir un débat de ce genre ? Est-ce que vous croyez que nos arrière-petits-enfants verront l'abolition de la prison ?
On peut espérer qu'il y ait d'évolution à ce niveau-là. En tout cas, qu'on ait déjà un débat, nous, sur la mission de la prison, à quoi ça sert, et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes d'intervention dans les quartiers sociaux, etc., qui permettrait d'éviter d'incarcérer une grande partie de la population. Voilà, ça c'est une première chose. Je crois que déjà, si on avait ce débat, nous, et si on voulait bien se donner les moyens et ne pas avoir un discours à court terme électoraliste, on pourrait déjà faire avancer un peu ce débat sur l'abolition. Mais bon, moi je crois qu'actuellement, il est de toute façon complètement en France, complètement décalé. Personne ne veut l'entendre. Bon, mais je crois que progressivement, dans un premier temps, on pourrait avoir un débat sur la mission de la prison.
Quoi ? T'as dit quoi ? Tu me parlais de l'avenir tout à l'heure. Hein ? Ah, je t'entends plus. Je sais plus quoi dire.
Moi, j'ai l'impression qu'on vous en demande trop. J'ai l'impression qu'on en demande trop aux magistrats. J'ai l'impression qu'on en demande trop à la justice. Je veux dire par là... Que je préfère évidemment qu'on ait affaire à la justice plutôt qu'à la police, bien évidemment. Hein, police partout, justice nulle part. On connaît le slogan, on l'a braillé tout dans les rues. Mais en fait, j'ai l'impression que cette société se tourne trop vers vous. C'est-à-dire qu'on s'en remet trop aux juges et pas assez au débat public et pas assez aux autres possibilités d'intervention et de régulation des inégalités, des problèmes sociaux.
Mais oui, c'est exactement le problème. C'est-à-dire que actuellement, que ce soit d'ailleurs au pénal ou au civil, d'ailleurs, tout devient judiciarisé. Et on a une tendance très, je dirais, nord-américaine à tout judiciariser. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Il faut redéfinir l'intervention du juge dans la société et peut-être éviter de le saisir pour des affaires ou des problèmes sociaux qui ne sont pas de son ressort.
C'est pas un arbitre, hein, c'est quelqu'un qui applique la loi.
Oui. tout à fait.
C'est quelqu'un qui est là pour appliquer la loi dans un cadre où il l'a fait bouger, il l'a fait vivre, mais il n'est pas un arbitre.
Alors le problème, c'est effectivement le problème de la loi et du juge, c'est un problème fondamental. De plus en plus, les lois font appel, je vous ai dit, à des infractions pénales qu'à mon avis, ils ne devraient pas prévoir. Et en plus, de toute manière, on est dans une société française qui est quand même organisée autour de la Constitution de 58, qui prévoit que finalement, l'État et l'autorité judiciaire est intégrée à l'État, soit intégrée à l'État, et que donc finalement, l'intervention publique, c'est ce qu'est aussi l'intervention judiciaire. Et donc, on mélange tout, on mélange le pénal, le social, et on croit que finalement, on va faire intervenir l'État par le biais du pénal. Et ça, c'est une erreur. Je crois qu'il faut laisser la société respirer et créer des moyens sociaux et des caisses en charge sociales qui n'ont rien à voir avec la justice.
Du déclin au défi, voilà ce que j'aurais appris au moins. En 21 années dans un pays qui n'est pas le mien. La ségrégation va à son plein, des traductions truquées, intégration sinon rien, opposée à des traditions trop ancrées. La preuve en est mon nom, aucunement rebaptisé, une drôle de prononciation, une connotation gênante. Arrive tout droit du pays et pas répertorié, une mésentente dans les colonnes de ton calendrier écoué. Tu m'étonnes, mieux vaut rester à faune, ça sonne pas, et fous la merde dans tes quotas. Du déclin au défi, une envie d'affirmer son être. S'il faut être craint pour se faire reconnaître, s'il faut mettre fin à des institutions suspectes pour qu'on te respecte. Le défi est ouvert, ma communauté est fière. Faut terre à terre, trop endurci par la souffrance de mes ascendances. Pour leur indépendance, la raison, le maintien dans l'ignorance. La désillusion devient la forme d'agression la moins efficace du colon. L'immigré résident en Occident comprend plus, il s'attarde sur les pans, plus il s'éloigne dans leur enseignement. Les connaissances accumulées deviennent les armes les plus solides, si mes coutumes sont pas mises en danger, mes racines me guident. Ma culture définit le lien entre ma couleur et l'ampleur du défi. Les outils sont les mêmes, les problèmes n'ont pas changé. Ce sont les moins informés qui sont le moins bien équipés. Du déclin au défi, ma fierté m'appartient. Mon potentiel culturel me prête main forte contre n'importe quel sentiment de rejet que l'Occident conforte. Un élément nocif qui fait du rap à but lucratif, qui chante sous la pluie et étudie pour rester nocif. Écoué le poison d'avril, mon sauveur définit une stratégie qui consiste à m'infiltrer. Un espion avec du rap comme occupation, un moyen d'infiltration, de communication plus. Sachant que les différents blocus deviennent très vite des tremplins, pousse ma vision loin pour améliorer mon quotidien. Du déclin au défi, voilà ce que j'aurais appris au moins. En 21 années dans un pays qui n'est pas le mien.
En raison de la grève d'une certaine catégorie du personnel, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels. Et c'est tant mieux.
Bonia Pasqua, Bonia Pasqua, Bonia Pasqua, Marcela. Bonia Pasqua, Bonia Pasqua, Bonia Pasqua, Marcela. Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres. Le brushing et les bangs, quand on aille le liaison, vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de l'huile les caresses. On va aimer de tous les poulets. La matraque, la plage mal, le menotaure, radiateur, on va bientôt déguster. Hey. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le chardeur. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit,
c'est des interlutants, le collectif des interlutants lorrains, qu'on écoute www.ozar.com. Merci à tous, merci à, on l'écoutera évidemment en entier bientôt, hein, vous inquiétez pas. Et Raffarin, nous voilà, oui, aussi. Bon, allez, Gilles Sénatier était notre invité aujourd'hui, il est le co-auteur de La Machine à punir à l'esprit frappeur. Merci à l'association Pulsart. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Michel Tourette. Thomas, pardon. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Et le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. Choix musicaux, Coyenne Guyenne. Antoine Chauveau a réalisé cette émission modeste et géniale. C'est le moment de la réclame.